RCF.
Nous avons tous fait l'expérience qu'un bon petit plat dans lequel on oublie de mettre du sel est fadasse et que la recette est aussi immangeable quand la salière est tombée dans la marmite. Pas assez ou bien trop, visiblement Jésus sait faire la différence et dans l'évangile de ce dimanche, il nous encourage à utiliser les bonnes proportions. Utilisant les images domestiques du sel qui relève les aliments et de la lampe allumée qui réjouit le cœur, il invite chacun d'entre nous à se donner en toute humilité. Pour commenter cet évangile, je reçois cette semaine la bibliste Marie-Reine Mezzaroba. Bonjour.
Bonjour.
Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16.
Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
Marie-Reine Mezzaroba, il nous faut resituer le passage que nous venons d'entendre. C'est donc l'évangile de Matthieu. Et ce passage arrive juste après les béatitudes?
C'est ça, il arrive juste après les béatitudes. Donc les béatitudes, vous vous souvenez, la foule suivait Jésus et Jésus est monté sur une montagne pour être un peu au-dessus et on dit que ses disciples s'approchent. On peut imaginer qu'il parle à ses disciples ou qu'il parle même à cette foule qu'il a suivie et c'est à ces gens qui ont entendu les béatitudes qu'il dit « Vous, vous êtes ». Le sel de la terre.
Alors, j'aimerais qu'on démarre avec ces béatitudes, qu'on les rappelle quand même, parce qu'elles sont paradoxales. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés. Qu'est-ce que ça veut dire?
Déjà, ça veut pas dire heureux ceux qui n'ont souci que d'eux-mêmes, heureux ceux qui n'ont besoin de rien, heureux ceux qui sont rassasiés. Les gens qui sont heureux pour Jésus, ce sont des personnes qui sont en manque d'une certaine façon, qui sont en attente. Moi, je récapitulerai les béatitudes en disant heureux celui qui a le cœur ouvert, qui est malheureux aussi pour son frère. Heureux celui qui a le cœur ouvert et qui est touché. Et qui n'est pas rempli, satisfait de lui, satisfait de la vie, auto-centré.
Reprenons avec vous, Marie-Reine Mezzaroba, verset après verset, l'évangile de ce jour. Jésus, donc, qui se trouve sur la montagne, au moment du discours des béatitudes, s'adresse à ses disciples et il dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Jésus utilise l'image du sel. Pourquoi le sel? C'était un produit d'usage domestique à l'époque de Jésus?
Bon, j'imagine quand même qu'on s'en servait. Hein. C'est ce que vous disiez dans votre introduction. Le sel, déjà, ça a toujours dû servir pour saler les plats. J'ai vu hier, justement, que Sœur Jeanne d'Arc traduit par « si le sel devient fou ». Et elle dit que le sel est une image de la sagesse. Donc, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que les gens qui ont un certain état d'esprit et qui arrivent à orienter une discussion dans le sens de la paix, dans le sens de l'ouverture, ça met un esprit dans un groupe finalement. Hein, comme le sel va donner de la saveur à un plat.
Ça colore
ça
finalement
ça colore
un espace, une relation.
Oui.
Alors le sel, il donne du goût, mais il peut aussi conserver les aliments. On sait qu'autrefois, on utilisait le sel pour ça.
Ah oui,
Et quel sens ça peut avoir, là, justement?
Alors là, peut-être qu'on pourrait dire, ça conserve, j'allais dire, ça conserve la loi pure. Je pense que chez Matthieu, il y a cette idée que le Jésus de Matthieu dit que pas un iota de la loi ne passera. Il est très soucieux de montrer combien Jésus est venu appliquer la Torah, combien il est l'accomplissement. Donc, il s'agit de conserver la Torah dans son état de pureté, pas au sens pas sali par la fréquentation d'autrui, mais de pas s'être dévié, de pas s'être frelaté, de pas s'être mélangé.
Pour les disciples qui entendent Jésus devenir sel de la terre, ça veut dire quoi au fond?
Moi, je dirais, c'est quand même, si des gens se mettent à vivre dans l'esprit des béatitudes, c'est-à-dire à se soucier d'apporter, enfin, ou d'être instrument de paix, de se soucier de la justice, d'accepter de compatir, d'agir. Je dirais, c'est moteur, même si c'est pas, c'est vivant, c'est stimulant.
Et c'est le sel parce que ça amène une trace, un goût.
Oui.
Dans la société, mais qui peut piquer aussi. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes peuvent, le sel qu'ils répandent par leur parole exigeante qu'il faut aimer, qu'il faut rendre justice, ça peut nous piquer.
Oui, mais je pense que la première chose, c'est peut-être pas d'interpeller les autres, mais de commencer par soi. L'intérêt, ça serait d'être soi-même quelqu'un qui vit en conformité avec ce qu'il raconte. La grande difficulté, c'est qu'on est très tenté de dire des choses, d'avoir des bonnes intentions, mais au final, qu'est-ce qu'il en est de notre amour véritable? Qu'est-ce qu'il en est de notre véritable intérêt pour autrui? C'est pas toujours si simple, je trouve.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Marie-Hélène Mezzaroba, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. Il s'agit donc du sel qui doit garder sa valeur sel pour donner du goût au plat. Il s'agit aussi de trouver un équilibre entre le trop et le pas assez.
Oui.
Qu'est-ce que ça voudrait dire ça dans la vie d'un disciple ?
Moi, je crois que pour eux, c'est à eux d'être du sel. C'est-à-dire que c'est pas d'être trop ou pas assez sel, parce que le sel est sel. C'est à eux d'être du sel, et la bonne proportion de sel donne le goût au plat tout entier. C'est-à-dire, il s'agit pas de se couper du monde. Il s'agit pas d'imaginer que on devrait vivre dans notre bulle, dans notre petit club de chrétiens, à part, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y en aurait trop. Le sel a du sens dans son rapport avec le reste de l'alimentation.
Mais c'est pour ça que vous preniez l'exemple du levain dans la farine, c'est pareil, c'est la même image. Il ne peut pas y avoir que du levain.
Oui.
Il faut que ce soit plongé dans la farine. Le sel est pareil.
Et du coup, ça donne aussi sa valeur à tout le reste. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en opposition avec le monde. On a une tendance, quelquefois, qui peut être presque sectaire, à se dire, il faut que ce monde est mauvais, retirons-nous. C'est un peu le contraire. Mettez-vous en relation avec le monde et acceptez d'en être le sel. Enfin, acceptez cette particularité, c'est que vous n'êtes pas la farine, vous n'êtes pas les œufs, vous êtes juste le sel, mais soyez du sel.
Mais justement, comment devient-on sel ?
En suivant les béatitudes et effectivement en vivant de cette parole. Alors c'est peut-être plus l'image de la lumière que celle du sel, mais l'image de la lumière, c'est l'image de la parole de Dieu qui éclaire. Mais la parole, effectivement, qui va empêcher de tourner en rond, qui va empêcher dans la convoitise humaine que nous partageons, nous chrétiens, avec les autres. Je veux dire, on n'est pas moins narcissique, moins égoïste que les autres. Mais on est appelé à vivre dans l'esprit des béatitudes et du coup, à devenir du sel, donc à vivre nous-mêmes autrement, et à inviter finalement tout le monde à rentrer dans cette logique en témoignant de la joie que ça nous apporte, enfin de comment ça nous met ensemble dans la paix et dans la joie.
Marie-Reine Mezzaroba, nous allons parler de la lumière, la deuxième grande image de cet évangile qui se trouve, je le rappelle, chez Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16. Mais d'abord, revenons sur la fin du passage sur le sel, puisque Jésus dit à ses disciples, « Si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Le sel fade ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Qu'est-ce que ça veut dire s'affadir pour quelqu'un, un disciple, qui désire suivre Jésus ?
Je crois que c'est rentrer dans la logique du monde.
Et c'est quoi la logique du monde alors ?
Il me semble que la logique du monde, c'est un peu... Dans le récit des tentations, c'est ce que le diable dit à Jésus. « Si tu me sers, je vais te donner... » Il lui montre toutes les richesses du monde. Et il lui dit « Si tu me sers, eh bien je te les donnerai. Si tu t'inclines devant moi, elles seront pour toi. » Et je me dis, la logique du monde, et la logique donc aussi humaine, c'est quand même l'accaparement. Moi d'abord, et bon, la logique du monde, on voit bien, c'est l'argent, enfin, c'est la logique autour de laquelle on tourne, peut-être en ce moment, je sais pas si c'est plus que jamais, mais enfin, vraiment, qui est en train de redevenir notre Dieu. C'est l'économie en ce moment qui régit notre monde. Ça n'est plus l'homme petit à petit. Il doit être au service de l'argent.
Et alors, l'affadissement, c'est donc se concentrer sur l'avoir, la convoitise et perdre de vue ce pour quoi l'homme est fait, c'est-à-dire la relation, l'amour, le partage.
Je crois, oui. Et je crois que c'est cette tentation de se faire agréger. Tout à l'heure, je parlais de la tentation de se mettre dans une secte, mais l'autre tentation, c'est d'essayer de se faire agréer, de s'agréger comme des moutons qui n'osent plus parler ou faire autre chose ou dire autrement parce qu'ils veulent être bien vus. On a quand même aussi envie d'être aimé, justement, de ne pas être persécuté. On va brosser les gens dans le sens du poil, parce que si je dis ça dans telle réunion de travail, les collègues vont penser quand même que j'exagère. Je vais plus plaire. Hein. Et l'essai de plaire, la volonté d'être agréé, d'être accepté, d'être accueilli, fait qu'on peut vraiment s'affadir beaucoup.
Et alors le piétinement, parce que Jésus dit « vous serez piétinés par les gens ». Si vous ne valez plus rien en tant que sel, qu'est-ce que ça peut signifier, ce piétinement ?
Ouais, ça va. Oui, c'est du mépris. Si vous êtes, je dirais presque, vous êtes prostituée pour plaire, pour obtenir les faveurs, finalement, vous ne valez plus rien. Et quelqu'un qui se vend, finalement, on le maltraite.
Marie-Reine Mezzaroba, après l'image du sel, Jésus emploie l'image de la lumière lorsqu'il s'adresse à ses disciples dans l'évangile de ce dimanche. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » La lumière est présente dans de nombreuses reprises dans la Bible. Elle évoque quoi ? Elle évoque la présence de Dieu ?
Oui, ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Donc, il me semble que la lumière, c'est d'abord quand même la parole de Dieu lui-même, la présence de Dieu lui-même, sa parole, parce que c'est... Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est quand même ce qui est clair dans la ténèbre. Hein, c'est ce qui...
Oui, on pense à Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Oui.
Et la lumière a reluit sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort. Donc cette lumière, elle peut arriver sur l'homme, elle peut elle-même devenir lumière en lui.
Oui, d'abord elle l'éclaire, c'est-à-dire elle est d'abord pour lui, elle lui permet de voir, de sortir des ténèbres, de voir où il est, de pouvoir se repérer. Parce que dans le trouble, dans la confusion... Quelquefois, on ne sait plus trop où on va. Donc, il y a des paroles qui nous éclairent, la parole de quelqu'un d'autre qui nous sortent du trouble. Hein, donc, avant que de devenir lumière pour d'autres, je crois que la première chose, c'est d'être soi-même au bénéfice de cette lumière.
C'est-à-dire se laisser arroser par les rayons, se laisser imprégner par cette lumière.
Oui. Je crois que de fait, la lumière, elle est d'abord hors de nous et on va vers elle ou on la reçoit. Mais finalement, oui, elle vient en nous. Si on vit vraiment de l'Esprit du Seigneur, elle vient en nous. Seulement, je pense que c'est quand même en partie à notre insu. C'est-à-dire que si vraiment on laisse la présence de Dieu habiter en nous, au sens où le dit saint Paul, ou au sens où l'a vécu Marie, ça se fait en nous, c'est Dieu qui vient en nous, qui met sa paix, qui met sa parole, qui met son esprit, mais c'est pas nous qui avons la maîtrise de cette chose-là.
Nous ne sommes pas à l'origine de la lumière, c'est ce que vous êtes en train de dire.
On n'est pas à l'origine, on peut pas la faire rentrer. Enfin, on peut ouvrir, enfin, ou l'accueillir, mais c'est elle qui vient. Parce que j'ai toujours une appréhension avec cette affirmation, vous êtes la lumière du monde. La manière dont les gens ont pu le comprendre, en croyant que eux, maintenant, ils avaient le bon discours, la bonne parole, la bonne, ils connaissaient la vérité. Et ils allaient la dire. Et je crois que c'est pas du tout comme ça.
Enfin, alors comment l'entendre justement quand c'est... il dit Jésus, vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée, parce qu'effectivement on peut se dire c'est un peu grandiloquent, c'est cette montagne, on est la lumière en haut.
C'est ça. Oui. Mais je crois que par exemple, alors pour prendre des personnages célèbres, que ça soit Sœur Emmanuelle ou l'abbé Pierre, je pense que leur but n'a jamais été de faire quelque chose pour être vu. Mais il se trouve que finalement, ils sont vus par tout le monde. Même les incroyants, les anti-cathos, enfin, les plus féroces vont reconnaître ces personnes-là au bien qu'elles font. Je pense à Jean Vanier, je prends des personnes célèbres, bon, qui n'ont pas du tout fait ça pour être célèbres.
Et des hommes et des femmes qui vivaient les béatitudes, pour le coup.
Voilà. Et finalement, leur lumière irradie quelquefois le monde entier, pour les gens qui sont devenus célèbres, mais pour ceux qui sont pas devenus célèbres, pour des gens qui travaillent dans un service hospitalier, qui sont avec leurs voisins, enfin, c'est pareil. La lumière dans la maison. La lumière dans la maison, c'est pas la lumière pour toute la ville, mais c'est la lumière dans la maison. Sur son petit territoire avec les gens qu'on fréquente, on peut aussi être lumière dans le sens où, par la paix par laquelle on est habité, par une bienveillance, mais une bienveillance qui vient pas de nous. Je veux dire, un amour qui n'est pas de nous.
Qui nous traverse.
Qui nous traverse. On irradie quelque chose et les gens ne s'y trompent pas. Ça se voit dans le corps des personnes.
C'est pour ça que Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met bien en évidence. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ça voudrait dire quoi, mettre sous le boisseau la lampe? C'est-à-dire mettre un couvercle dessus?
Ben oui, je crois, hein. Ça voudrait dire cacher. C'est vrai que c'est mystérieux, hein. Mais je pense aussi que des fois, on n'a pas envie de parler. Parce que justement, de nouveau, ça va nous faire des ennemis peut-être, si on dit des choses qui vont pas plaire au groupe, qui vont pas aller dans le consensus de tout le monde. Et à ce moment-là, on peut être tenté de se taire. Et à ce moment-là, bon, on se cache alors qu'on sait qu'on devrait parler.
Vous parlez des paroles, Marie-Hélène Mezzaroba, mais est-ce les paroles qui sont lumière ou les actes?
Je crois que ça dépend des situations. La parole de Dieu, elle est acte. C'est nous qui avons une distorsion entre agir et parler. Mais il y a des moments aussi où le fait de parler est un acte. Vous êtes dans une réunion de travail, on est en train de se moquer d'une de vos collègues, de la piétiner ou de la maltraiter. Si quelqu'un dans le groupe s'oppose, ça change la donne pour le groupe entier. Et c'est un acte, cette parole. C'est un acte. Alors, on n'est pas obligé d'être agressif, mais on peut être ferme en disant « mais vous ne pouvez pas faire ça ». Et on voit bien que, par exemple, le harcèlement au travail, ça marche parce que personne ne dit rien.
Alors, il y a ceux qui osent parler, mais il y a ceux qui ne parlent pas, mais qui vont agir un peu comme le levain dans la pâte.
Oui.
Et qui seront une lumière peut-être discrète, mais réelle.
Oui.
Par leurs actes.
Je pense à, par exemple, toutes les personnes qui ont protégé des Juifs pendant la guerre. Ils l'ont fait de façon très discrète. Il y a des personnes, c'était juste leurs voisins. Et ils ne l'ont pas fait non plus avec un programme d'héroïsme, mais quand même au risque de leur vie. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était dans la logique de leur vie.
Enfin une bonne nouvelle,
Béatrice Saltner.
Marie-Reine Mezzaroba, lisons avec vous la fin de ce texte. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Quand on lit ce verset, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors ça m'inspire que c'est pas à vous qui rendront gloire, donc c'est vraiment pas vous qui allez être admirés, c'est l'œuvre de Dieu. Ce qu'a fait Jean Vanier, ce qu'a fait Sœur Emmanuelle, ils pouvaient pas faire ça par eux-mêmes. Enfin, c'est pas possible. Ça, c'est l'œuvre de Dieu.
Sur l'expression « rendre gloire », voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi, dans un langage peut-être plus accessible, rendre gloire?
Moi, je pense que ça veut dire qu'ils vont en reconnaître la présence, parce que finalement, c'est ce qui est lourd, la gloire, hein, c'est ce qui pèse, c'est ce qui a de la valeur.
Le poids.
Le poids. Ils vont reconnaître ce Dieu-là. Au début de l'émission, je disais que notre Dieu, c'est l'argent, et je crois que ils vont reconnaître le Dieu de... Le seul qui mérite qu'on lui rende gloire, hein, c'est pas l'argent.
Marie-Reine Mezzaroba, nous avons regardé l'évangile de ce jour avec vous. Nous avons commencé à dire en quoi il pouvait nous toucher. En quoi c'est une bonne nouvelle pour nous dans notre monde aujourd'hui? On dit parfois les chrétiens sont bien timides, sont bien frileux, notamment en France. Cette évocation de la lumière, du sel de la terre.
Je crois qu'il y a une urgence pour nous de retrouver le sel de la terre. On est trop pris, je crois, par des soucis institutionnels et par des découragements institutionnels en se disant « Oh là là, on devient un tout petit groupe, puis on n'arrive pas finalement à modifier quelque chose dans nos institutions, c'est trop, ça marche pas. »
Dans l'Église.
Enfin, et je me dis que finalement, c'est pas le problème. Enfin, que finalement, chacun à sa place et là où il est, sans tirer des plans sur la comète et sans essayer d'occuper autre chose que sa propre place dans la société, peut être lumière du monde, d'abord en se laissant habiter, en se laissant rejoindre, en se laissant pardonner pour son propre péché, sa propre convoitise, en se laissant habiter par ce Dieu qui veut se donner au monde par nous. Alors, il se donne pendant que vous faites n'importe quoi. Vous vous occupez de votre voisin. Il y a des gens qui ont des missions plus visibles ou plus héroïques que d'autres. Mais je dirais, peu importe ce qu'on fait, pourvu que ça soit au service de la vie de Dieu dans les personnes.
Donc, il s'agit moins d'une logique quantitative à vous écouter qu'une logique qualitative avec l'Évangile. C'est pas au nombre de fidèles, de baptêmes qu'on calcule les choses.
Non. On voit bien comment ce qui se passe à un endroit a des répercussions infinies, en fait. Et que une parole qui a remis quelqu'un debout va avoir des répercussions parce que cette personne-là va remettre d'autres debout. Donc c'est un peu comme les cailloux qu'on lance dans l'eau et qui font des ronds. Celui qui le fait ne sait pas où ça va. Ce qu'on fait pour un enfant, ce qu'on fait pour une personne fragile, ça fait du bien sur la terre, ça nous échappe. Enfin, c'est un peu la question de l'effet papillon, mais bon, c'est...
Et en même temps, ce que vous décrivez là, c'est pas du tout réservé aux chrétiens. Tout le monde peut être sel,
oui.
Lumière.
Ah ben oui, d'ailleurs, Jésus ne dit pas « vous les baptisez, vous êtes le sel de la terre ». Il dit ça aux gens qui écoutent, qui sont venus l'écouter sur la montagne. Ils ont été attirés par sa parole. Et ceux qui sont attirés par sa parole, ceux qui vont rester attirés par sa parole, ceux qui sont abreuvés par sa parole et qui sont éclairés, vont finalement être ceux qui la portent, je crois, à leur insu. C'est-à-dire, il nous donne pas un programme guerrier, un programme de triomphe, il nous donne de le croire. De le croire, de le servir dans nos frères. De le croire. Plus de le croire que de vouloir le faire. C'est un petit peu quand Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Nous, on voudrait faire les choses par nous-mêmes. On imagine qu'on devrait faire des choses extraordinaires.
Pour être la lumière, pour être le sel.
Voilà. Mais je crois que non, on fait notre boulot là où on est et on le fait dans la logique des béatitudes, dans la logique du Seigneur en suivant le Christ.
Un grand merci à vous, Marie-Reine Mezzaroba. L'évangile de ce dimanche est à retrouver chez Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Merci à Antoine Picot, à la technique.